بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Al-Bukhari nous rapporte un récit qui a été lui-même rapporté par Abu Huraira. Il s'agit donc d'un événement authentique. Nous ne doutons pas sur le fait qu'il se soit produit dans ces détails-là. Et deux grands enseignements nous intéressent dans ce récit. Le premier, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment cette miséricorde peut faire des miracles. Deuxièmement, le musulman fort peut servir l'islam. Quant au musulman faible, alors il ne sert que sa propre personne et encore. Abu Huraira dit, le messager de Dieu a envoyé un détachement militaire et à leur tête c'était Muhammad ibn Maslama et c'était l'année 6 de l'Hégire, juste après la bataille des coalisés ou la bataille du fossé quand les musulmans ont été encerclés pendant un mois et ça a failli leur coûter la vie. Donc le prophète envoie un détachement militaire vers Najd, qui est une contrée en Arabie Saoudite. En chemin, les soldats musulmans font prisonnier un membre de la tribu de l'Yamama, des Banu Hanifa qui sont dans Al-Yamama. Et à ce moment, ils ne savent pas qu'ils ont mis la main sur le chef de cette tribu. Ils ramènent ce prisonnier à Médine et ils l'attachent autour d'un poteau de la mosquée, dans la mosquée du prophète. Le prophète, alayhi wasalam, rentre dans la mosquée et il voit cet homme enchaîné autour d'un poteau. Et il dit aux gens, mais savez-vous qui est cet homme? Les compagnons disent non. Il dit, il s'agit du chef du clan des Banu Hanifa. Autrement dit, on a eu un des plus grands ennemis de l'islam. Et juste après, il leur dit, comportez-vous bien avec lui. Il rentre chez lui et il demande à sa femme, à sa famille, de rassembler de la nourriture et il va lui ramener cette nourriture. Il va même plus loin, puisqu'il va lui-même traire sa chamelle et apporter un bol de lait à ce prisonnier, qui est son ennemi. Et lui dit, Umama, qu'est-ce que tu crois que je vais faire de toi? Quel sort penses-tu que je te réserve? Umama lui dit, si tu me laisses la vie sauve, alors je serai reconnaissant. Si tu me tues, sache que mon peuple pourra me venger. Et si tu veux, on te donnera une grande rançon pour me libérer. Le prophète le laisse. Il revient le lendemain. Et il lui dit, ô Umama, que penses-tu que je vais faire de toi? Il lui dit, si tu me libères, alors je serai reconnaissant. Si tu me tues, on me vengera. Et si tu veux, on peut te donner beaucoup d'argent pour ma libération. Les frères, s'il vous plaît, avancez-vous encore, serrez-vous. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Merci. Le prophète, alayhi wasalam, lui laisse encore une journée de réflexion. Et le troisième jour, il lui repose la même question. Et Umama lui donne les mêmes réponses. Le prophète, alayhi wasalam, après trois jours, il dit aux compagnons, relâchez-le. Relâchez-le. Umama quitte la mosquée et il va dans un jardin et il prend un bain, une douche. Et il revient dans la mosquée et il dit, ô Muhammad, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tu es son messager. Il se convertit à l'islam. Les gens lui disent, mais pourquoi maintenant? Pendant 3 jours, le prophète te proposait l'islam. Pourquoi maintenant? Il a dit, parce que si je m'étais converti en étant prisonnier, les gens auraient pensé que je l'ai fait par peur. Et je ne suis pas un lâche. Je me suis converti en connaissance de cause, en liberté. Comme ça, on ne dira pas que le converti est embrigadé. Mais il fait un choix libre. Parce qu'il considère que l'islam est la voie du bonheur. Et il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, au prophète, tu étais la personne que je détestais le plus, et maintenant tu es celui qui est le plus cher à mes yeux. Pourquoi le prophète est subitement devenu la personne qu'il aime le plus au monde? Pourquoi? Parce qu'il a goûté à sa miséricorde. Alors qu'auparavant, on avait sali sa réputation. On avait dit que c'était un chef de guerre sanguinaire qui tue les prisonniers, qui leur fait du mal. Mais l'attitude du prophète lui a prouvé le contraire. Il lui dit, et ta religion était celle que j'avais le plus en aversion. Et maintenant, elle est rentrée dans mon cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant 3 jours, le prophète, alayhi salam, l'a accueilli dans la mosquée. Et pendant 3 jours, il observait le comportement des musulmans. Alors qu'auparavant, quand il était loin des musulmans, il était la victime des médias. La victime des médias. Quand il a vécu avec les musulmans, il a compris qu'il avait été manipulé. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait comme mission de faire entrer les gens à la mosquée, même si ce sont des non-musulmans. Et c'est pour ça qu'en l'année 9 de l'Hégire, il va accueillir une délégation de chrétiens de Najran, ils étaient 60, et il va les faire entrer dans la mosquée. Les musulmans vont prier l'Asr, et juste après, les chrétiens de Najran vont prier en direction inverse, puisque les musulmans c'était vers la Mecque, eux ils vont prier la prière chrétienne en direction de la Palestine, dans la mosquée. Et le prophète ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait un dialogue entre eux. Et ensuite, Abu Umam a dit, ô messager de Dieu, j'étais venu pour me rendre à la Mecque faire la Umrah. Et tes soldats m'ont arrêté. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le prophète lui dit, tu continues ton chemin et tu vas faire la Umrah à la Mecque. Et c'est le premier musulman dans l'histoire de l'islam à avoir accompli la Umrah à la Mecque. Abu Umama entre dans la Mecque. Il fait son tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Mais vous savez que sa conversion à l'islam fait la une. C'est pas n'importe qui. Donc les gens s'attroupent autour de lui et lui disent, ô Umama, il paraît que tu es devenu musulman? Il leur dit, oui, je suis devenu musulman. Et il se moque de lui et il l'insulte. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, je jure par Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je vais empêcher. C'est pas que je vais empêcher. Comme c'est lui le chef de sa tribu, et que l'Yamama c'était en fait la partie agricole de l'Arabie Saoudite, et que la Mecque vivait essentiellement de commerce et qu'ils avaient besoin l'importation des denrées agricoles, Abu Umam a dit, je vais empêcher toute caravane de partir de chez moi pour vous ramener du blé. Et après quelques mois, la famine sévit à la Mecque. Abu Soufyan, chef de la Mecque, ennemi déclaré de l'islam, envoie un appel au secours au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, ô Muhammad, Umama refuse. Il fait un embargo économique sur la Mecque. Il refuse de nous livrer le blé. Nous avons faim. Et tu es connu pour tes liens de parenté. Nous faisons partie de ta famille. Aie pitié de nous. Alors que, durant la même année, Abu Soufyan et d'autres tribus arabes ont fait un embargo autour de Médine et qu'ils allaient les décimer. Et quelques mois plus tard, il appelle au secours le prophète au nom de la miséricorde. Et le prophète A.S.A.T.W. envoie une lettre recommandée à Oumama en lui disant « Aie pitié de ces gens, envoie-leur du blé ». Là se termine le récit de l'Bukhari. Est-ce que vous avez remarqué que le prophète A.S.A.T.W. est une personne pleine de bonté, de miséricorde, qu'il est capable de faire du bien à ceux qui lui font du mal. Si ça c'est vrai, s'il est vrai que le prophète A.S.A.T.W. faisait du bien à ses ennemis et qu'il est notre modèle, ne devrions-nous pas faire du bien à ceux avec qui nous vivons en paix dans cette société ? Évidemment oui. Alors pourquoi on entend ces jours-ci des gens hésiter à faire preuve de politesse avec leurs concitoyens non musulmans. Et ils se demandent si en islam, il est possible de souhaiter bonne fête à des gens qui passent un moment heureux. Pourquoi cette hésitation? D'où vient-elle? N'avons-nous pas dans la vie du prophète plusieurs exemples de politesse, voire même de bienfaisance? Certains disent, oui, mais si je souhaite bonne fête à une personne, soit bonne fête fin d'année ou bien joyeux Noël, c'est une manière de cautionner. C'est une manière de cautionner. Et moi je vous dis que ça, c'est du mensonge. Qui cautionne une pratique qui n'est pas la sienne? Personne. C'est une, tout simplement une preuve de politesse, de vivre ensemble. La preuve, c'est que l'islam nous permet, en tant que musulmans, de nous marier avec une juive ou une chrétienne. C'est un verset du Coran. Si je me marie avec une juive ou une chrétienne pratiquante, est-ce que ça signifie que je suis devenu chrétien ou juif? Cela signifie-t-il que je cautionne la Trinité et les pratiques chrétiennes ou juives? Si vous dites ça, alors vous dites que Dieu s'est trompé, que Dieu cautionne ce genre de choses. Certains disent, oui, mais c'est une manière de les conforter dans leur égarement. Et là aussi, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Quand l'islam reconnaît la liberté de culte aux autres, cela signifie-t-il qu'il est d'accord et qu'il cautionne une déviance ? Pas du tout. Nous considérons que la véritable adoration de Dieu, elle est en islam et qu'il y a des problèmes dans les autres religions. Mais cela ne nous empêche pas de leur reconnaître cette liberté, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a fait dans le Coran en disant « Adorez qui vous voulez, vous êtes libre, vous rendrez des comptes, mais vous êtes libre. » Certains disent « Oui, mais le fait de souhaiter bonne fête, c'est une manière de donner de l'importance à cette fête. » Moi, je vous pose une question. Si une personne mange, une personne non musulmane, est à table et qu'elle mange un bon steak, qui n'est pas halal pour toi, si tu lui dis bon appétit, est-ce que tu as commis un péché? Pourtant, il est en train de manger une viande que toi, tu ne manges pas, qui t'est interdite. Le fait de lui souhaiter bon appétit, est-ce que c'est une manière de le conforter dans un égarement? Est-ce que c'est une manière de cautionner quelque chose? Pas du tout. Et celui qui dit ça, il est complètement fou. Quand des personnes se marient, des non-musulmans, et que tu leur dis « je vous souhaite une vie heureuse, une vie de couple heureuse », est-ce que c'est une manière de cautionner une relation qui n'est pas la tienne en islam? Une relation de mariage qui ne correspond pas peut-être à tes principes? Pas du tout. Ça s'appelle de la bienfaisance et de la politesse. Quand une personne voyage et que tu lui souhaites un bon voyage, peut-être que son voyage ne t'est pas permis, est-ce que tu es en train de cautionner de faire un péché? Vous vous rendez bien compte qu'on est dans le ridicule, n'est-ce pas? Certains disent, il t'est interdit d'acheter une bûche au magasin. cette glace. Pourquoi ? Parce que c'est une bûche qui est en relation avec Noël. Certains vous disent, il t'est interdit de consommer des œufs de Pâques, parce que ces œufs ont été confectionnés en relation avec une fête chrétienne. Et ils oublient. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Tarikh, où Ali ibn Abi Talib, quand il était en Irak, il reçoit une pâtisserie. Il dit, mais d'où vient cette pâtisserie ? On lui dit, c'est une pâtisserie qui est vendue par les mages ou les zoroastres. À quelle occasion ai-je reçu cette pâtisserie ? Ils disent, parce qu'aujourd'hui, c'est leur fête, une fête païenne. Vous savez ce que dit Ali ibn Abi Talib ? Il dit, j'aimerais bien que ce soit tous les jours, cette fête, pour pouvoir manger cette pâtisserie. Certains vous disent, c'est un texto qui circule, hein, Abu je ne sais trop qui, dit qu'il est haram, interdit, de recevoir la prime de Noël. Cette prime que vous recevez, généreusement, par la France, interdit cette prime, parce qu'elle est en relation avec Noël. Et si elle est dans ton compte, forcément, alors tu devras t'en débarrasser. C'est un argent sale. Parce que c'est en relation avec Noël. Autrement dit, et ils vont y arriver, ils vont vous dire, un jour, tu n'as pas le droit de passer des vacances pendant les vacances de Noël. Parce que ce sont des vacances qui ont été instituées durant une période de fête qui s'appelle Noël. Donc pendant les vacances de Noël, toi, tu dois travailler. Donc le dimanche, tu dois travailler. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Quel est ce ridicule dans lequel on se morfond ? Qu'est-ce qui sert l'islam ? Celui qui va avoir un bon comportement avec ses concitoyens ? Celui qui va avoir des paroles de politesse, de réconfort ? Ou celui qui va s'enfermer et qui va insulter les gens et qui va les traiter d'égarés ? Qui va servir l'islam ? Deuxième grande leçon que l'on tire de cette histoire, c'est que regardez comment Oumama a réussi à faire plier les ennemis de l'islam à la Mecque parce qu'il était fort. Et aujourd'hui, si la communauté musulmane est si méprisée, c'est parce que nous sommes faibles, c'est parce que nous sommes divisés, c'est parce qu'on est inexistant sur le plan politique, économique, médiatique, intellectuel, artistique. Combien de fois on s'est plaint, on a manifesté parce qu'on considère que des caricatures sont blasphématoires contre notre prophète bien-aimé, que le film Innocence, qui aujourd'hui est sur le net, est blasphématoire et qu'il blesse les musulmans. Est-ce que ça a servi à quelque chose ? À rien du tout. Par contre, un groupe de personnes fortes en informatique, ont réussi à faire plier Hollywood, Sony Pictures. Et les États-Unis ont tremblé parce qu'un pays, la Corée du Nord, a fait pression afin qu'un film qui est une parodie de leur dictateur, afin qu'un film ne paraisse pas. Et Hollywood a tremblé. Pourquoi ? Parce que ce dictateur a plus d'importance que notre prophète ? Non. C'est parce qu'eux, ils ont les moyens de se faire respecter. Nous, on n'a pas les moyens. Si, il y a un texto qui circulait, je l'ai reçu personnellement. Le film Innocence va être diffusé sur YouTube. C'est une attaque contre l'islam. Solution, pendant 3 jours, n'allez pas sur Google. Pendant 3 jours, ne surfez pas sur Google. Comme ça, ils vont perdre de l'argent et ils vont retirer le film. Quelle bêtise. Quel ridicule. Au lieu de produire des films, au lieu de s'investir dans le cinéma, comme l'a fait il y a plus de 30-40 ans Abbas Al-Aqad, pas Abbas Al-Aqad, mais Al-Aqad, qui nous a pondu un film dont on est fier, qui s'appelle Le Message. Mais y en a-t-il eu d'autres sur le prophète de cette envergure au cinéma depuis 30 ans ? Zéro, parce qu'on ne produit rien et qu'on a encore des problèmes avec l'art. Et qu'on est encore en train de discuter, est-ce que je peux dessiner ? Est-ce que je peux représenter des choses? Nous sommes à des années-lumière des défis de notre temps. Regardez, nous sommes en pleine période de Noël. Il est tout à fait naturel que vous voyez sur les écrans les 10 commandements. Pas les 10 commandements. Ce qui est lié à Jésus ou bien à Moïse. Mais quand les musulmans vont demander qu'il soit diffusé le film Le Message, et seront-ils écoutés? S'ils sont forts, oui. S'ils pèsent, oui. Ou sinon, ils vont continuer à salir notre religion et notre prophète, parce qu'on n'est pas à la hauteur. Et il y a un film qui vient de sortir au cinéma, je pense que beaucoup veulent le voir, Exodus, sur le prophète Moussa alayhi salam. Déjà, par principe, on ne va pas voir ce genre de film. Parce qu'Allah nous a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina aadhaw Moussa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. » Ô vous qui avez la foi, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du mal à Moïse et Dieu l'a innocenté. Ce genre de film ne respecte pas les prophètes. Donc on ne doit pas faire de mal aux prophètes en y allant. Et pour le coup, oui, on cautionne. Si on va, on s'assoit au cinéma et qu'on regarde ce genre de film qui parle en mal des prophètes, alors oui, c'est une manière de cautionner. Et oui, c'est un péché. Quelle solution? Avant qu'il y ait un film islamique sur qui est Moussa, qui est Jésus, qui est Mohammed, en attendant, commençons déjà à faire connaître qui est Moussa, alayhi salam. Et je vous propose, au lieu d'aller au cinéma et de perdre votre argent, et de faire peut-être un péché, venez dimanche, ici à la mosquée, juste après la prière de l'Aïcha, on parlera de qui est Moïse. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut faire, qu'on peut proposer, c'est des conférences sur qui est Moussa, en attendant qu'il y ait des films un jour. Donc je vous invite grandement, au lieu d'aller mettre 7-8 euros au cinéma, de venir à la mosquée, vous ne paierez rien, et si vous voulez ces 8 euros que vous vouliez donner au cinéma, vous les donnez à la mosquée, vous venez jamais et vous écoutez qui est Moussa et quel enseignement nous pouvons tirer de sa vie. Et si ce qui va vous manquer, c'est l'ambiance du cinéma et les pop-corn, vous inquiétez pas, on vous donnera des pop-corn, il n'y a pas de souci. Mais venez à la mosquée afin d'apprendre qui sont vos prophètes au lieu d'aller au cinéma et de regarder ce qui n'est pas bien. Ceci étant dit, plusieurs personnes nous ont demandé de faire des invocations. Il y a une maman qui a fait une sadaqa qui a dit « Ma mère est décédée il y a bien longtemps, faites des invocations pour elle. » Il y a un homme qui est très malade, qui demande des invocations. Une maman qui demande des invocations pour elle-même et ses 3 filles. Il y a un couple qui va partir en Umrah, je pense, dimanche. On fera des invocations pour eux. Et puis, il y a la vente de thé, de gâteaux, de café, juste après la prière, dans l'une des salles. C'est l'association Agir qui fait ça, afin de récolter de l'argent et de proposer des activités à vos enfants. Et puis, il y a une collecte pour une mosquée. Donc, soyez généreux. Et enfin, je vous rappelle que dimanche, inshallah, après l'Aïcha, il y aura une intervention sur la vie de Moussa et les enseignements à en tirer. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ألف بين قلوبنا اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان ميتا فارحمه اللهم من طلب منا الدعاء فإنا نسأل له الجنة والفوز من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة